Comme tous nos clients prévoyants, mettez votre famille à l'abri avec l'assurance décès. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que quelque chose va vraiment changer en France en matière de lutte contre les violences conjugales, de lutte contre les violences faites aux femmes? Un processus a été enclenché il y a quelques mois avec la convocation en septembre du Grenelle consacré à cette cause. Une étape intermédiaire le mois dernier. La conclusion, ce 25 novembre. 138 femmes tuées depuis le début de l'année sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. 220 000 victimes de violences au sein du couple. Violences physiques, violences intimes. Au niveau mondial, d'après l'OMS, près du tiers des femmes ont été confrontées à ces brutalités, à ces sévices de la part d'un conjoint. Alors, quel type de mesures sont susceptibles de faire reculer ce que, dans une tribune publiée il y a quelques jours, 65 médecins considèrent comme un problème de santé publique à part entière? Des médecins qui appellent à la mobilisation, améliorer le dépistage, repérer les signes avant qu'il ne soit trop tard. Des médecins partagés aussi sur l'une des pistes retenues, à savoir l'évolution du secret médical pour signaler plus facilement les faits. Une option qui, pour une partie du corps médical, pourrait rompre le lien de confiance avec la patiente. Alors, est-ce que quelque chose est en train de changer dans les mots employés, dans la prise de conscience collective? Mais qu'en est-il des moyens consentis, de l'hébergement, de l'écoute, de la réponse rapide de la part des forces de l'ordre? Prévenir et prendre en charge les violences conjugales, c'est notre sujet du jour dans Priorité Santé. C'est le titre de cette tribune publiée il y a une semaine, prendre en charge, réparer ces violences, pour le magazine L'Obs, tribune dont vous êtes l'un des signataires. Docteur Gilles Lazimi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin généraliste au centre de santé de la ville de Romainville en Seine-Saint-Denis. Et vous avez été entre 2013 et jusqu'à cette année, docteur Lazimi, membre du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Violences conjugales, violences faites aux femmes, fléau majeur et international. Nous retrouvons en ligne du Sénégal Marital Diop. Elle est responsable de projets santé sexuelle et reproductive au sein de l'ONG Enda Santé à Kolda, c'est en Haute-Casamance. Violences conjugales et rôle majeur de l'acteur, des psychotropes aussi, dans le déclenchement de ces violences, des médecins, des experts, des proches de personnes en situation de dépendance dénoncent le fait que ces consommations ne soient pas davantage pointées comme facteurs de risque. Sur cette question, nous allons interroger tout à l'heure le professeur Michel Reynaud, psychiatre, addictologue, président du fonds Action Addiction.
Priorité santé sur RFI.
Alors, je le disais, docteur Gilles Lazimi, vous êtes l'un des initiateurs de cette tribune, médecin, on peut dire aussi militant de cette cause. Une cinquantaine de mesures énoncées ce matin à l'issue du Grenelle. On va bien sûr revenir sur les mesures phares qui ressortent de ce rendez-vous donc lancé en septembre. Ça s'est conclu en ce moment même. Docteur Gilles Lazimi, qu'est-ce que vous retenez, vous, après ce processus, des mois de réflexion? Est-ce que quelque chose, d'après vous, est-ce que quelque chose est en train de se passer?
Ben je l'espère, mais on est aujourd'hui au sixième plan violence. Donc j'ai espéré à chaque plan violence que les choses bougent. Et effectivement, ça bouge, mais pas suffisamment, à la marge. Quand on voit que on a 138 féminicides depuis le début de l'année, quand on sait que depuis 15 ans, ça n'a pas bougé, quand on sait qu'on a des rapports sur les féminicides depuis 2006, qui précisent que 65% des femmes étaient connues de la police et n'ont pas été suffisamment protégées, eh bien, alors, on se pose des questions sur les mesures qui sont annoncées. Un grand nombre de mesures sont intéressantes. Oui, le téléphone 24 heures sur 24, c'est intéressant.
Je dis le numéro, 3919, c'est 39 très important 19. De le dire.
Tout à fait. 19. Et puis sur les violences sexuelles, on peut appeler le 0800 05 95 95, qui est une ligne spécialisée, parce que effectivement sur les violences sexuelles, j'ai pas beaucoup entendu de choses dans les mesures. Donc il y a des mesures intéressantes, et puis il y a des mesures qui existent déjà dans l'arsenal légal, qui existent déjà dans la loi. Il y a des dispositifs comme l'ordonnance de protection, qui sont des dispositifs dispositif, mais remarquable, qui existe depuis 2010, et on nous remet des choses qui existent déjà.
Donc le problème, ce n'est pas la mesure en tant que telle, mais c'est l'application des mesures.
C'est l'application des mesures qui n'est pas faite, c'est la police qui n'instruit pas les plaintes, c'est les victimes qui, au sortir du commissariat, ne sont pas protégées, c'est les lieux d'hébergement spécialisés qui ne sont pas en nombre suffisant, et puis il y a par exemple les armes. On découvre, mais d'abord, juste pour le médecin, s'il a connaissance que l'agresseur a une arme chez lui, ben, il est levé de son secret médical. Et là, on nous dit que la police pourrait aller chercher, mais encore heureux. Mais que fait-elle? Est-ce qu'elle le fait vraiment? Et est-ce qu'elle prend en compte la plainte des dames? Il y a plein de mesures
mais
qui
même
sont
si
sur l'autorité parentale, par exemple. C'est quand même formidable, l'autorité parentale. Alors, on découvre aujourd'hui qu'il faut suspendre l'autorité parentale d'un criminel qui tue sa femme.
Oui, parce que c'est dans les mesures à venir.
Voilà, parce que des juges, encore aujourd'hui, obligent des enfants qui ont assisté à des crimes de leur mère d'aller en prison et d'être sous l'autorité du criminel.
Voire même, chose complètement hallucinante quand on lit, obligation alimentaire. Imaginons un jeune adulte qui a les moyens, son père a tué sa maman, il est indigent, eh bien il est obligé de subvenir aux besoins de son parent assassin.
Tout à fait.
Aujourd'hui, c'est la loi en France.
C'est encore la loi. Et sur l'autorité parentale à suspendre, mais dans les ordonnances de protection, on peut déjà, depuis 2010, suspendre l'autorité parentale si l'homme est violent. Et pourtant, ce n'est pas suffisamment fait. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les téléphones grand danger, ça aussi, ça peut être prescrit par le juge. Ça n'est pas fait. Dans les féminicides, la dernière étude, sur 88 femmes qui ont été étudiées, une seule ordonnance de protection a été demandée. Mais je comprends pas. Où est la priorité? Où est la grande cause du quinquennat? Sérieusement, si on veut que ça soit appliqué, il faut mettre les moyens. Je n'accuse pas les policiers qui ont énormément de travail, la justice. Il faut mettre les moyens. Il faut mettre des personnels. 70 travailleurs sociaux. C'est bien. C'est génial quand ils sont sur place. Et dans ma ville, il y a un travailleur social au commissariat. C'est remarquable et ça va aider. Mais il en faut plus, très clairement. Il faut vraiment des policiers qui soient chargés que des violences conjugales. Les homicides, les féminicides en France, ou tous les décès liés aux violences conjugales, c'est à peu près 19% des homicides en France. Oh, c'est pas une priorité, ça, je comprends pas. Alors quand on nous dit c'est l'affaire de tous, oh, non, c'est pas l'affaire de tous, sérieusement. L'État a pour rôle de protéger les victimes. Et depuis 15 ans, je n'accuse pas que ce gouvernement, tous les gouvernements ont failli. Donc il faut vraiment mettre les moyens et prendre des décisions qui soient obligatoires pour la police et la justice.
Ici, c'est priorité santé. On va parler en particulier...
Bien sûr, excusez-moi.
C'est normal, vous enflammez, c'est votre cause. Maintenant, je vais m'adresser aux médecins, docteur Gilles Lazimi. Le rôle des médecins, justement, il est cité parmi les mesures. On va y revenir un petit peu plus tard, mais moi, je voudrais vous demander, quelle a été la place des médecins, des soignants, des praticiens? Parce que eux, ils sont directement auprès de ces femmes, quand ils les prennent en charge, parfois dans des états critiques. Quelle a été la place de ces médecins dans le processus de ce Grenelle? Est-ce que vous avez été directement associé, directement impliqué?
Alors, très très peu associés. Je pense que même l'Ordre national des médecins, à mon avis, a dû solliciter sa présence. On a été très peu sollicités, très clairement. Et encore une fois, les mesures qui ont été prises par ce groupe de travail, je vais le dire comme je le pense, je me suis posé la question de savoir si ces personnes recevaient vraiment des femmes victimes de violences et connaissaient l'emprise de ces femmes, les difficultés de ces femmes pour pouvoir parler et être accompagné, prendre la décision à la place des femmes victimes de violences, les considérer comme des mineurs, mais c'est tout faire, c'est contre-productif, c'est tout faire pour ne pas les aider.
Et là, quand vous parlez de ça, c'est en évoquant l'éventualité, la possibilité qui fait partie de ces mesures de lever du secret médical. Un médecin signalerait donc
au procureur,
comme cela se fait pour les enfants victimes de violences, les coups ou le soupçon de violence. Violence conjugale.
Tout à fait. Alors ça veut dire que si des médecins ne sont pas formés, et quand même un grand nombre de médecins ne le sont pas aujourd'hui, on dira pourquoi, ils vont penser qu'il ferait bien de signaler une femme victime de violence. Conclusion, cette femme ne parlera plus, ne sera plus en confiance, et c'est quand même le premier lieu d'accueil des femmes victimes de violence. Quand une femme ne peut pas parler des violences qu'elle subit, c'est le corps qui parle. Et alors, on a toute une panoplie de pathologies médicales et psychiatriques, et on pourra en parler. Donc il est vraiment important...
Mais on peut en parler tout de suite, justement.
Oui, mais c'est vraiment important de savoir qu'on est le premier lieu, et qu'il faut former les médecins, et qu'il faut aussi les former avec d'autres professionnels, car c'est vraiment une pathologie, ce sont des tableaux qui nécessitent l'intervention de tous les partenaires associatifs, psychiatres, psychothérapeutes, travailleurs sociaux et surtout les associations d'aide aux victimes.
Un généraliste, sans faire un exemple de stéréotype, un généraliste voit entrer une femme en situation de fragilité qui parle d'insomnie. Qu'est-ce que ça va être, par exemple, l'un de ces tableaux cliniques s'il n'y a pas forcément d'hématome ?
Alors, on peut avoir tous les tableaux cliniques de la médecine générale. Et quand on fait l'inventaire des troubles, on a des pleurs, de l'anxiété, de l'hypervigilance, une patiente qui peut être soit mutique devant nous, soit agressive, une patiente qui peut générer du rejet, c'est le médecin, une patiente qui n'est pas en confiance, une patiente qui ne peut parler sur les violences qu'elle subit parce qu'elle a honte, parce qu'elle se sent coupable, parce que on a tout fait pour l'empêcher de parler, hein. Ou alors on a pris les décisions à sa place, ou alors son entourage lui dit « mais pourquoi tu pars pas ?» ou alors son entourage lui dit « mais il faut que tu restes, ce mari est formidable ». Toutes ces injonctions font que la patiente ne peut pas parler. Et les violences qu'elle subit au quotidien, parce que pour qu'une femme parle des violences spontanément, ça met parfois des mois, des années, si on ne pose pas la question. Elle se sent tellement mal qu'elle se sent pas légitime pour parler et qu'elle se sent coupable. Donc il est important de pouvoir les aider. Mais 50% des femmes victimes de violences conjugales sont dépressives. Des femmes qui tentent de se suicider, c'est un argument. Des femmes qui boivent et qui prennent des médicaments, c'est une piste. Des femmes qui se plaignent de douleurs pelviennes, quand je rêve de voir tous les médecins poser la question aux femmes qui se plaignent de douleurs pelviennes. La question simple, comment se passent les rapports? Est-ce que c'est toujours vous qui décidez? Mais la femme sera heureuse de pouvoir répondre, parce que là, on lui tend une perche. Les douleurs abdominales, les colopathies digestives qui s'éternisent pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, et jamais on n'a posé la question des violences. On sait qu'un grand nombre de douleurs digestives sont liées à des violences. Les fibromyalgies, magnifique tableau auquel on ne comprend pas grand-chose, et qui étiquette des 8 points douloureux, myalgiques et osseux chez les femmes. Et bien là, on sait que les femmes victimes de violences ont un risque 3 fois plus important d'avoir des fibromyalgies. On a toutes les pathologies médicales et psychiatriques aussi, parce qu'un grand nombre de femmes ont été perçues comme des patientes psychotiques parce qu'elles ne pouvaient pas parler, parce qu'elles avaient des voix dans leur tête et parce qu'elles avaient la tête prise par ces pensées, par ces flashbacks, par ces troubles d'hypervigilance, par ces pensées intrusives. Et puis aussi cette dissociation, la sensation de ne pas être dans son corps, la sensation d'être anesthésié, ces peurs paniques. On a tous les tableaux de la médecine et quand on enseigne aux internes en médecine générale, quand on fait des formations médecins, on les aide et c'est une véritable révélation car leur apprendre à poser les questions va calmer le jeu, va permettre d'avoir une relation saine avec la patiente et va permettre aussi, c'est ça qui est génial, de permettre aux patientes de pouvoir parler en confiance à quelqu'un dans le secret des violences qu'elle subit, mettre des mots sur sa souffrance, ne plus être seule, être respectée, être reconnue comme victime. C'est essentiel, c'est le premier temps thérapeutique pour la suite. Et la suite, ça peut être la plainte, bien évidemment.
Parcours de souffrance et puis prise de conscience collective aussi, hein, qui est en train de se passer avec une véritable mobilisation au sein de l'opinion publique. Et elle et ils se sont donné rendez-vous pour réclamer des mesures concrètes contre ces violences. Une trentaine de marches qui ont été organisées samedi. Marches organisées par le collectif hashtag Nous Toutes au pluriel, bien sûr, dans la capitale. Eh bien, le cabinet Occurrence a dénombré 49 000 manifestantes et manifestants. Impression recueillie dans le cortège par Raphaël Constant.
Alors c'est important aujourd'hui pour nous de venir manifester parce qu'on se rend compte que tout autour de nous, que ce soit nos aînés ou les plus jeunes que nous, tout le monde a subi des violences quelles qu'elles soient, que ce soit des simples violences verbales ou violences physiques, et même parfois que ça peut aller plus loin. Donc c'était important pour nous de montrer qu'on n'était pas pour être dans un système qui permettait de laisser ce genre de phénomène arriver à des gens, à des êtres humains comme les autres, et qui ne prend pas des positions assez importantes pour permettre d'empêcher tout ça.
Est-ce que vous pouvez me lire ce que vous avez écrit sur vos pancartes? Vous avez 3 pancartes violettes.
Alors, éduquez-les, vos fils, vos frères, vos potes, vos mecs, changeons-les, sauvons toutes. Éducation, réaction.
Tends bien l'oreille, quand je dis non, je dis non.
Pourquoi c'est important justement de manifester?
Pendant des siècles, les femmes se sont cachées, ont tu les maux dont elles étaient victimes. Et le fait d'être là au grand jour, un samedi après-midi dans Paris, c'est de dire c'est fini quoi. On lève le voile, on dit ce qui va pas et on fait changer tout ça. Bah, j'attends juste qu'à un moment donné, on arrête de manifester, qu'on n'ait plus besoin de ça. J'ai une fille qui va avoir 12 ans et j'aimerais que quand elle aura mon âge, elle n'ait pas à manifester pour qu'elle et ses sœurs puissent marcher dans la rue en jupe si elles ont envie, puissent avoir le salaire d'un homme, puissent être écoutées dans une réunion sans, voilà, sans qu'on sourit dans un coin, etc. Voilà.
Alors écoutez, moi en 83, j'ai pris la direction, j'ai été nommée directrice du premier centre d'accueil qui a accueilli des femmes victimes de violences conjugales. Bah, aujourd'hui, il n'y en a pas tellement plus, enfin si, il y en a un petit peu plus, mais c'est largement insuffisant. Aujourd'hui, Madame Schiappa, que je sache, ne finance pas l'ouverture de places supplémentaires destinées à accueillir des femmes victimes de violences conjugales. On disait déjà à l'époque, en 83, formation des policiers, formation des médecins, formation des magistrats. Aujourd'hui, un Grenelle pour redire ça, 40 ans après, on se fout de qui ?
So-so, solidarité avec les femmes du monde entier.
J'ai une sœur qui est décédée par son mari. À cause de ça, ça me fait triste. Je venais manifester pour toutes les femmes qui reçoivent des violences par conjugales et puis par leurs compagnons. C'était ça. On voulait que ça va arrêter, même si ce n'est pas arrêté, ça va diminuer contre des femmes. Parce que tous les jours, il y a une femme qui meurt par des violences là. Mais ça me touchait quand même. À cause de ça, j'ai sorti pour manifester comme toutes les femmes.
La société est en train de changer 2 ans après MeToo. Vraiment la tolérance par rapport aux violences faites contre les femmes, elle diminue et maintenant c'est à l'État de réagir. Les médecins doivent être le premier interlocuteur qui doit poser la question, est-ce que vous subissez des violences, et être ensuite en capacité d'orienter ces femmes vers les services de police ou vers les associations qui peuvent faire de l'accompagnement des femmes victimes de violences par rapport aux traumas qui sont extrêmement lourds. Et il y a aussi beaucoup de choses à faire en termes de suivi psychiatrique et la psychotraumatologie. On a vraiment besoin de moyens pour qu'il y ait une prise en charge des psychotraumas que les femmes subissent quand elles ont été violées ou agressées sexuellement.
Par contre, du pognon pour les femmes. Par contre.
Reportage de Raphaël Constant, vous étiez dans le cortège, docteur Gilles Lazimi.
Oui, c'était un magnifique cortège, avec énormément de jeunes, avec une énergie, beaucoup d'hommes aussi. C'est vraiment, c'est de la manifestation, c'était longtemps que je fais ces manifestations, qui était la plus importante et la plus inventive. Et on voit que la société est en train de changer, hein, très clairement, mais malheureusement, le gouvernement qui a pour fonction de protéger les victimes n'a pas pris la mesure. Il avait une chance inespérée, hein, de prendre les mesures. Malheureusement, ce sont encore des mesurettes.
Vous restez avec nous évidemment, docteur Gilles Lazimi. On va continuer de parler de la situation en France, ces mesures prises, les débats engagés. Mais il s'agit aujourd'hui bien sûr d'une journée mondiale, l'occasion de vous donner la parole. Marital Diop, bonjour.
Bonjour.
Alors, je le disais tout à l'heure, hein, vous trouvez au Sénégal, vous êtes responsable du projet santé sexuelle et reproductive au sein de l'ONG Enda Santé à Col d'en Haut de Casamance. Marital Diop, justement, vous êtes engagée dans un projet de lutte sur ces violences basées sur le genre. Alors, qui sont ces femmes que vous prenez en charge ?
Les femmes que nous prenons en charge sont généralement des femmes qui ont été victimes de viols. Que ce soit à l'intérieur du mariage ou bien hors mariage, des filles qui ont été victimes d'une grossesse précoce ou d'un mariage précoce, et des femmes qui sont victimes de violences physiques de façon générale.
Quand on parle de ces violences conjugales, on emploie le terme d'emprise, cette espèce de domination, cette incapacité de se retirer, y compris en situation de violence. Marital Diop, est-ce que vous avez l'impression que là où vous travaillez, là où vous intervenez justement en Haute-Casamance, vous êtes face à des phénomènes assez similaires ?
Oui, c'est le cas. Déjà, on a une société qui exerce une très grosse pression sur les femmes par rapport au secret de ce qui se passe à l'intérieur du ménage. Sans compter la socialisation qui fait que beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes pensent que la violence conjugale est quelque chose de normal. Elle est normée quand une femme fait une chose, son mari a le droit de la battre, son mari a le droit d'agir de telle sorte. Et c'est normé aussi bien au niveau des femmes qu'au niveau des hommes. Par exemple, quand on parle de viol conjugal, les gens sont un peu choqués parce qu'ils n'acceptent même pas le concept de viol conjugal. Parce qu'ils pensent qu'un mari peut avoir des rapports sexuels avec sa femme quand il veut et que ce n'est pas un problème s'il la force pour avoir ce rapport sexuel-là.
Ça veut dire que sur le consentement, il y a encore énormément de travail à faire.
Il y a énormément de travail à faire sur la notion de consentement, aussi bien hors mariage qu'à l'intérieur du mariage, encore plus à l'intérieur du mariage, dans le sens où le concept de viol conjugal même est réfuté.
Et quand la femme, justement, on parlait tout à l'heure d'emprise, quand la femme trouve les forces, les ressources pour dire « ça suffit maintenant, j'en ai assez », eh bien on se retrouve, Marital Diop, dans des situations où la famille arrive et dit « ah non, non, tu restes hein, », et essaie de dissuader cette femme victime.
Effectivement, c'est tout le temps le cas. Quand on dit qu'on veut quitter son mariage parce qu'on a un mari violent, les gens vous donnent X exemples de femmes qui sont restées dans leur ménage malgré que le mari soit violent. Ils vous disent que on sait tous que c'est en étant soumise, c'est en étant endurante dans le mariage que tu auras de bons enfants qui, à l'avenir, vont te rendre fière. Donc, on pousse la femme. Il y a une très forte pression sociale qui veut que la femme soit soumise, qu'elle accepte cette violence-là, qu'elle essaie de la gérer. Et il y a très peu de gens qui vont l'encourager à se battre, à sortir de ce ménage-là. Très peu de gens vont l'encourager à le faire.
Pression familiale, et puis Marital Diop, hein, il faut le souligner quand même, très vite, hein, la question de la survie qui se pose, hein, l'indépendance financière.
On parle beaucoup plus des violences physiques que des autres types de violences. Alors que c'est des violences qui sont là, qui sont très pernicieuses. Il y a les violences psychologiques, mais également il y a la violence économique. On sait que beaucoup de femmes ne travaillent pas et dépendent de leur mari pour leur subsistance. Elles viennent souvent de familles qui sont démunies et qui après ne pourront pas la prendre en charge, elle et son enfant, si jamais elle quitte son ménage. Donc ça, c'est aussi souvent un facteur déterminant qui pousse ces femmes à rester dans leur ménage, quel que soit le type de violence qu'elles vont subir. Parce qu'elles se disent que si je sors de ce ménage-là, où est-ce que je vais aller? Au niveau de ma famille, on n'est pas en mesure de me prendre en charge moi et mes enfants. Je n'ai pas de travail, je n'ai pas la possibilité de me prendre en charge moi et mes enfants. Donc je vais essayer de rester dans ce ménage malgré les brimades, malgré les coups, malgré les insultes, parce que je n'ai pas d'autres possibilités. Je n'ai pas d'autres endroits où aller.
On vous retrouve dans quelques instants, hein, Marital Diop, pour cet échange très instructif. Docteur Gilles Lazimi, oui. Cette question de la survie, de l'indépendance financière, c'est une problématique internationale. D'ailleurs, ce n'est peut-être pas pour rien que les femmes se sont mises de plus en plus à travailler pour avoir aussi cette forme d'indépendance. On dénonce les brutalités, on l'a bien compris. Encore faut-il pouvoir quitter le foyer, se mettre en sécurité et vivre à l'extérieur.
Tout à fait, et c'est ce qui pose le plus de problèmes. D'abord d'arriver à penser les violences, ensuite d'avoir du soutien. Il a le soutien familial, malheureusement, comme ce témoignage vient de le prouver, et en France aussi, hein, très clairement. L'absence de soutien familial, l'absence d'amis qui peuvent nous aider, nous accompagner, qui peuvent nous écouter, qui peuvent ne pas nous juger, c'est important d'avoir cette possibilité. Donc le professionnel de santé est une de ces possibilités. Malheureusement, ça ne suffira pas. Donc il faut absolument qu'il y ait des dispositifs d'aide qui puissent permettre aux femmes de devenir autonomes et de pouvoir quitter le domicile.
Et d'autant plus que ces risques, tout ça, ça se passe dans tous les milieux sociaux, y compris, on va dire, avec des femmes aisées, mais qui n'ont pas non plus d'indépendance financière. Ça arrive dans tous les milieux.
Dans tous les milieux, et puis dans les milieux les plus aisés, c'est encore plus difficile parce qu'il se trouve que l'homme violent a encore plus de pouvoir et de liens pour museler sa proie, sa femme.
C'est pas forcément plus difficile pour la situation de la femme, mais c'est plus difficile pour se défaire de l'emprise.
Tout à fait, et puis pour pouvoir en parler.
Vous restez avec nous, on va tout de suite donner la parole à nos auditrices. Témoignage, violence physique, violence psychique. Nous prenons en ligne Noémie. Bonjour Noémie.
Bonjour Madame Caroline Paris.
Nous avons enregistré cet entretien. Vous allez nous raconter votre histoire. Vous, ces deux violences psychiques que vous avez souffert, vous avez subi ces violences de la part de votre ancien compagnon. C'est bien cela?
Oui, c'est ça.
Alors racontez-nous.
En fait, moi, quand j'ai quitté l'Afrique, j'étais déjà maman de 2 enfants. À l'époque, j'avais pas des papiers. Les 115 me faisaient balader à de gauche à droite. J'ai croisé quelqu'un, mais je savais même pas qu'il était français. Et il m'a pas demandé l'enfant. En sortant seulement avec lui, je suis tombée enceinte comme ça. Comme j'ai dormi dehors, je partais chez lui. J'ai fait seulement des allers-retours. Et chaque fois, il me dénigrait, donc il me prenait moins que rien. J'avais pas de parole, même pas toute seule avec sa famille aussi.
Noémie, excusez-moi de vous interrompre. Donc le 115, c'est le SAMU social, c'était pour vous mettre à l'abri. Est-ce que vous diriez que finalement, vous retourniez avec lui parce que vous étiez tellement en détresse matérielle que vous n'aviez pas le choix?
Oui, en tout matériel, j'avais pas de papier, donc oui, j'étais en détresse matérielle, oui. J'ai 3 enfants avec lui. J'ai fait des allers-retours de 2004. Et c'est en 2016 que je suis sortie définitivement jusqu'à aujourd'hui. Quand j'ai eu les papiers, quand j'ai ma fille, elle m'a dit, toutefois, moi, c'est moi qui vous a donné des papiers. Je peux faire quelque chose avec ces papiers-là. Un jour, j'ai gardé même l'argent pour ma fille. Je mettais à côté pour ma fille. Et elle rentrait dans le compte de ma fille, prenait l'argent. Moi, je ne savais pas. Quand j'ai reçu le courrier, j'ai appelé sa sœur au Congo pour lui dire qu'elle... Et votre enfant a pris l'argent de ma fille. Quand sa sœur l'a appelé pour l'engueuler, elle m'a dit, toute façon, c'est moi qui l'ai donné le papier. Si je ne l'avais pas donné le papier, elle n'allait pas avoir quelque chose pour garder pour l'enfant.
Comment est-ce que vous réagissiez, Noémie, lorsque votre ancien compagnon, justement, vous rabaissait?
Ça me faisait mal. J'ai sorti, après j'ai retourné, mais c'est les radios RFI. Vos émissions m'ont beaucoup aidée. Je ne savais pas que la violence conjugale, c'est des paroles verbales aussi. Moi, je croyais seulement si on met les mains sur vous, la main sur vous. Je ne croyais pas qu'en vous dénigrant, on vous parlait des choses qui peuvent vous enlever l'estime de soi. C'est la violence conjugale aussi. Je ne le savais pas du tout.
La violence conjugale et les rapports sexuels, est-ce que ces rapports étaient consentis ou est-ce que vous étiez forcée?
Ce n'était pas consenti parce que moi, je faisais parce que je disais j'étais obligée. Si je ne donne pas, je ne vais pas dormir chez lui. Il va sortir des mots qui vont me faire mal. Je l'ai fait. Hors moi, même quand j'étais pas d'accord, je le faisais.
Et Noémie, qu'est-ce qui vous a fait penser un jour, là, j'ai atteint ma limite, c'est terminé?
En fait, j'avais effectué une formation d'employé familial, mais je n'ai pas réussi mon diplôme et j'étais blessée comme je n'ai jamais été. Donc, je disais, une fois de plus, je vais m'en sortir, je vais avoir un travail avec un vrai diplôme et je vais m'en sortir avec mes enfants. Et j'étais très, très mal. Je l'ai appelé pour lui dire, en fait, j'ai pas réussi mon diplôme, appellera. Et du coup, elle m'a balancé, mais non, c'est trop. J'ai vraiment un alphabète. Même une formation comme ça d'employé familial, t'as pas pu le réussir. Et qu'est-ce que tu vas réussir? J'ai trop bête et trop bête. Quand j'ai raccroché, j'ai dit, même si je vais rester seule. Seule, si chez moi, c'est la femme qui sont mariées, qui a plus de valeur et je vais manquer les valeurs. J'habite en France, je serai protégée par la loi française. C'est ça que ça m'a fait un déclic. Et depuis que je suis sortie, malgré je bavais dans les 115, jusqu'à aujourd'hui, j'ai réussi à tenir.
Et aujourd'hui, vous ne regrettez pas un instant d'avoir pris cette décision de le quitter et d'arrêter justement d'entendre toutes ces insultes?
Je ne regrette pas, c'était une parole très forte pour moi, je bavais, je viens d'obtenir un logement seulement en août 2018, mais depuis 2016, j'ai baladé dans toute la France avec les 115, avec les enfants, c'est même les lycées de mon fils qui a envoyé un courrier à 115 pour qu'on essaie de me mettre quelque part parce que je suis salariée, avec les enfants, j'ai vraiment bavé. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne regrette pas. J'ai un travail, je suis en CDI, ça fait au moins 6 ans. Même si j'ai raté ce diplôme, au moins là, j'ai récupéré l'estime de moi. Je marche tête haute, je ne regrette pas.
Merci beaucoup Noémie pour ce témoignage. On vous souhaite une très très bonne journée. Merci à vous et merci de nous avoir téléphoné pour parler de votre situation. Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Très bonne journée, au revoir.
Noémie, dont la voix a été modifiée, bien sûr, pour des raisons d'anonymat. On l'a bien compris à l'écouter, docteur Gilles Lazimi, l'insulte, c'est aussi une violence.
Tout à fait. C'est un très beau témoignage parce qu'en plus, on voit qu'il faut du temps pour comprendre les choses. Il faut du temps pour s'apercevoir qu'il fait des choses inadmissibles. Il la diminue, il l'insulte, il la rabaisse, il l'empêche de faire, très clairement. Et elle en prend conscience petit à petit. Elle a 3 enfants avec lui. C'est difficile de remettre en question l'homme avec qui on a 3 enfants. Elle l'a aimé, il s'est passé quelque chose. C'était pas tout de suite violent, ça s'est mis en place petit à petit. Ça, il faut laisser ce temps-là. Et pour revenir au mot blessant, petit à petit, elle comprend. Elle comprend que ce qu'il veut, c'est l'avoir sous sa coupe. Et il ne veut surtout pas qu'elle devienne autonome. Et donc, elle va comprendre. Elle va comprendre et elle va, c'est formidable. Elle va s'en sortir. On peut s'en sortir.
La tête haute, c'est voilà. Ce qu'elle dit. Hein.
Oui, et on peut s'en sortir et elle a un parcours éloquent. Alors le 115, effectivement, c'est très bien. Mais ça serait mieux si c'était une association spécialisée liée aux violences faites aux femmes. Et sur les mots blessants, les femmes qui ont été victimes de violences, violences sexuelles, violences physiques, violences verbales et psychologiques, souvent, 10 ans, 15 ans, 20 ans après, elles se souviennent encore plus des mots blessants et des mots humiliants. Ça, c'est une petite musique qui traîne et qui est là. Et beaucoup de ces femmes victimes de violences, en plus, elles ont déjà été victimes de violences dans leur enfance. Donc, elles sont en situation avec un attachement qui n'est pas sécure. Elles ont peur d'être abandonnées. Elles ont peur de laisser les choses et elles ne sont pas mises en situation d'être autonomes. Donc, c'est très, très dur, mais on s'en sort.
Et ça prend du temps, ça peut prendre du temps. Marital Diop, on vous retrouve en ligne du Sénégal. Oser dénoncer, ne plus subir cette pression invivable. Comment est-ce que vous agissez pour sensibiliser les femmes, pour réussir justement à mettre fin à ce silence qui fait si mal?
Le projet que nous mettons en œuvre ici dans le sud du Sénégal se base sur deux aspects. Le premier, c'est la prise en charge. Mais la prise en charge, ça veut dire qu'il y a déjà eu violence, donc on prend en charge la victime. Mais il y a un deuxième point très important qui concerne la prévention. La prévention pour éviter que cette femme ne se retrouve aujourd'hui ou demain victime de violence. Et cette prévention se fait aussi bien au niveau des femmes qu'au niveau des hommes.
Alors justement, comment c'est ressenti au sein de la communauté? Est-ce qu'il n'y a pas certains hommes ou même certaines femmes, on va dire, qui seraient plus dans la tradition, qui vous disent bah, « mêlez-vous un peu de ce qui vous regarde, ça se passe comme ça depuis toujours, pourquoi ça changerait ?»
Ça, on est tout le temps confronté à ce genre de discours. Déjà, l'EDS 2015 montrait que près de 50% de la population, dont des femmes, trouvent normal qu'une femme soit battue par son mari pour telle ou telle ou telle autre faute qu'elle aurait commise. Donc les gens vous disent, effectivement, mêlez-vous de vos affaires, pourquoi est-ce que vous nous tenez ce discours, c'est pas pour vos beaux yeux que je vais quitter mon mari, etc., etc. Ou bien un homme vous dit que je ne vous laisserai pas mettre en question mon autorité. Parce que c'est comme ça qu'ils le conçoivent. Ils ont une femme, ils doivent avoir une main mise sur lui, la corriger au besoin si elle commet une faute à ses yeux. Et la femme accepte ça. Donc le travail, c'est un peu par rapport à l'estime de soi vis-à-vis des femmes, qu'elles n'ont pas à supporter cette violence-là. D'autant plus que dernièrement, il y a eu beaucoup de femmes qui ont été tuées sous les coups par leur conjoint. Et on se rend compte que c'est pas lors de la première bastonnade qu'elles ont été tuées. C'est arrivé une fois, deux fois, trois fois, et la violence, elle va en crescendo. À un moment donné, il va atteindre le point de non-retour et il va la tuer. Donc, comme cette femme aurait pu éviter cette situation-là, ses parents auraient pu la soutenir pour lui éviter de vivre cette situation-là, de mourir et de laisser des enfants en bas âge, ils seront complètement perdus dans cette vie, sans maman et avec un papa qui aura tué leur mère.
Est-ce qu'il y a une action particulière de votre association, de votre ONG Marital Diop, dirigée pour, en quelque sorte, sensibiliser la jeunesse pour que dans la prochaine génération, eh bien, les choses changent? Parce qu'on voit bien que ces croyances, ces aberrations, eh bien, elles sont ancrées dans, on va dire, même dans certaines valeurs de la société.
Effectivement. Si je dois donner un pourcentage, je dirais que à peu près 90% de nos activités de prévention sont à destination des adolescents jeunes. On commence à parler avec les jeunes, filles et garçons, à partir de l'âge de 10 ans, pour leur apprendre les concepts de genre, de droits humains, de respect, d'estime de soi, comment cohabiter en toute harmonie, sans se crier dessus, sans s'insulter, sans se taper dessus. L'importance de la communication dans le couple.
Alors, il y a ces choses qui relèvent du quotidien, c'est essentiel, cette sensibilisation. Du côté de l'arsenal législatif, Marital Diop, de la loi au Sénégal, est-ce que la loi, on l'a dit tout à l'heure, hein, y compris en France, la loi pourrait bien protéger, encore faudra-t-il qu'elle soit appliquée. Est-ce que la loi est à la hauteur au Sénégal?
Le problème ne se situe pas vraiment au niveau de la loi, parce que le Sénégal a ratifié pratiquement toutes les conventions internationales par rapport à la lutte contre les violences basées sur le genre. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de dénonciation. Une femme qui est victime de violences au niveau de son ménage, dans le meilleur des cas, elle quitte le ménage. Mais l'affaire est rarement, très rarement
portée en justice. Il n'y a pas de plainte, surtout, vous voulez dire?
Surtout, voilà, il n'y a pas de plainte. Surtout si dans le couple, il y a un enfant, les gens vont vous dire, pensez à votre enfant. Mm-hmm. On va dire que c'est l'enfant-là, c'est celle ou c'est celui dont sa mère a amené son papa au tribunal, etc., etc. Donc la loi, elle est là, elle est effective, mais elle n'est pas utilisée. Les gens ne portent jamais ou rarement les affaires devant les tribunaux. On va toujours trouver un moyen de régler ça en famille, en interne, voir comment gérer ça, etc. Mais dans 100 cas de violence conjugale, c'est 0,04% qui est porté devant les tribunaux.
Donc on perçoit l'importance de la sensibilisation. Docteur Gilles Lazimi, justement, on travaille avec les générations futures, mais on s'interroge aussi sur l'origine de ces violences.
L'origine de ces violences, elles sont sociétales, elles sont religieuses, elles sont. C'est une société machiste avec des hommes qui ont pris le pouvoir et qui dirigent la société très clairement et qui ont fait leur femme leur proie très clairement, on peut le dire. Et puis on peut reprendre aussi tous les proverbes, qui aime bien châtie bien, par exemple. Hein, mm-hmm. Ça permet au père de frapper ses enfants et de frapper sa femme aussi. Et tout ça, c'est quelque chose qui est présent. Mais qui heureusement change, hein, quand même, on a quand même progressé et on va progresser. Je voudrais revenir sur oser dénoncer. Ça m'ennuie qu'on dise aux victimes oser dénoncer. Moi, je préférerais qu'on dise aider à faire parler les victimes, aider à réparer.
Parce que sinon, ça les culpabilise encore de ne pas avoir dit.
Mais on les culpabilise en permanence. On les culpabilise parce qu'elles restent, on les culpabilise parce qu'elles veulent partir, on les culpabilise parce qu'elles parlent pas, on les culpabilise parce qu'elles font pas, elles demandent pas d'aide, mais l'aide, on leur donne pas.
Docteur Gilles Lazimi, Marital Diop, on vous retrouve dans quelques instants.
Priorité santé sur RFI.
On reparle du Grenelle, violence liée à l'alcool et aux psychotropes oubliés de Grenelle. Décidément, cet événement qui vient de se conclure aujourd'hui fait réagir, puisque c'est sous ce titre que vous avez publié une tribune. Professeur Michel Reynaud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre addictologue, tribune dans laquelle vous dénoncez avec un certain nombre de vos confrères, hein, et ainsi que des patients, des proches de personnes en situation d'addiction, une forme d'occultation du rôle joué par l'alcool, les psychotropes dans ces violences conjugales. Alors qu'est-ce que nous apprennent les chiffres, professeur Reynaud ?
Il y avait une espèce d'éléphant au milieu de la pièce que notre société et les pouvoirs publics ne voulaient pas voir. Les chiffres, c'est plus de 55% des féminicides sont commis sous l'emprise de l'alcool ou des psychotropes. Évidemment, le plus souvent de l'alcool. Par ailleurs, on n'a pas de notion, mais quand on fait des enquêtes partielles sur la violence dans l'alcool, dans les violences conjugales, celles qui ne mènent pas au féminicide, on est plutôt de l'ordre des deux tiers. Donc il y a une part majeure de l'alcool et des psychotropes dans le déclenchement de la violence et éventuellement du meurtre. Ça a été montré de façon expérimentale, ça a été montré en étudiant les statistiques dans plusieurs pays. Il n'y a aucun doute. Contrairement à ce que dit ce matin Madame Schiappa, ça n'est pas. Elle dit que l'alcool n'est pas responsable sous prétexte qu'un certain nombre de gens boivent et ne sont pas violents. C'est tout à fait vrai, mais un certain nombre de gens conduisent et ne tuent pas en voiture. L'alcool facilite le passage à l'acte, l'alcool facilite la violence. Donc il faut faire quelque chose. Notre agitation inquiète, parce que ça avait déjà été dit avant au pouvoir public, c'était devant l'impression que rien n'allait être fait. Là, ça a un tout petit peu changé.
Ça veut dire qu'il faut faire un repérage, c'est-à-dire que quand il y a violence, interroger la personne sur son rapport au psychotrope ou à l'alcool. Quelles mesures précisément, professeur Michel Reynaud, qu'est-ce que vous souhaitez, vous, expert, voir changer ?
La première des choses, c'était d'analyser la fréquence, parce qu'en France, les dommages liés à l'alcool sont occultés, c'est-à-dire qu'on ne les voit pas bien, on n'a pas de système de repérage de bonne qualité, et c'est pas un hasard. Il fallait donc l'étudier systématiquement dans toute violence conjugale. là, il semble que la décision ait été prise. Et donc, c'est déjà un progrès. Mais l'État ne pouvait pas, et donc on a à nouveau agi devant le fait qu'il n'y avait que ça dans les propositions, se limiter à regarder sans agir. L'on sait que les couples restent longtemps ensemble sans forcément vouloir se séparer avec un conjoint violent. Là, les mesures qui étaient prises visaient à protéger la femme lorsqu'elle souhaitait se séparer, mais c'est faire fi de la complexité des relations de couple qui restent très longtemps sans que ce soit forcément une emprise pathologique. Ça peut être une relation d'amour avec de la violence. Et il fallait donc traiter. Et on avait l'impression que les coupables, les hommes qui font des violences...
Les agresseurs, oui.
Les agresseurs n'étaient pas pris en compte. Alors là, ça a un tout petit peu changé, puisqu'on va construire des appels à projets dans les régions françaises. Je rappelle qu'il y a 9 régions françaises, 13, mais qu'elles sont immenses. Deux centres par ville, par région, c'est très bien. Mais c'est un peu comme si on construisait 2 CHU sans avoir de médecin généraliste. Dans l'immense majorité des cas, quand on doit suivre quelqu'un qui a des problèmes d'alcool, on le suit dans sa vie courante et on l'accompagne. Et il n'a pas forcément besoin d'une hospitalisation de 3 mois à 300 km de chez lui. Donc il y a, on n'est pas allé assez loin, et ben on continuera. J'espère qu'il y aura des projets, dans le projet de loi, il y aura des amendements.
Merci beaucoup, professeur Michel Reynaud, président du Fonds Action Addiction, concepteur du portail addicted.fr. Je voyais réagir docteur Gilles Lazimi. Le professeur Reynaud évoquait, on n'en a pas parlé justement, ça fait partie des mesures du Grenelle, la création, on va dire, de ces places de suivi pour les hommes agresseurs. Comment ça vous fait réagir?
Écoutez, c'est une bonne chose, mais encore une fois, c'est pas la première fois, pas la deuxième fois qu'on en parle. On a parlé de stage de responsabilisation. Quid de ces stages et de l'efficacité? On a parlé de ces centres. Là, on va en créer 2 par région. C'est beaucoup de par région. Ça fait effectivement, ça va être 23, 26 centres. Juste pour rappeler le parallèle avec les victimes, il y a que 10 centres de psychotrauma qui ont été mis en place. C'est un peu la différence. Là, sur l'alcool et les violences, bien évidemment, l'alcool est un facteur facilitant. C'est une circonstance aggravante. Ces hommes, ils sont violents. Sans alcool, ils sont violents, et avec alcool, ils sont encore plus violents. Moi, j'aimerais aussi qu'on parle des victimes qui vont tellement mal, qui sont tellement mal prises en charge, qu'elles se soignent toutes seules avec des mauvais produits, avec des drogues et avec l'alcool. J'aimerais bien aussi que qu'on parle de ces victimes-là et que dans tous les centres d'addictologie, on fasse un repérage des violences qu'ont subies ces personnes, ces femmes, et qu'on puisse aussi les accompagner et les aider.
Alors, je voudrais qu'on revienne sur un terme que vous venez d'employer rapidement, mais qui mérite d'être expliqué, centre psychotrauma, parce que c'est important, docteur Gilles Lazimi, d'offrir une prise en charge multidisciplinaire. Quand on a été victime de violences conjugales, on souffre de plusieurs endroits, je vais dire pour schématiser, on a mal de différentes façons et on a besoin de différents soins.
Tout à fait, on a besoin de différents soins et on a aussi besoin d'une prise en charge sociale, une prise en charge juridique. Et c'est vrai qu'on aimerait qu'il y ait des maisons pour accueillir les victimes, où on puisse être soigné, écouté par la psychologue, accompagné par les centres sociaux, et peut-être qu'une plainte puisse être prise. Mais il en faut beaucoup, parce que la proximité, et c'est, en ce sens, je rejoins le professeur Reynaud, la proximité, elle est essentielle. Mmh. On peut pas envoyer une femme victime de violence qui n'a plus d'argent, qui n'a pas de ticket de métro, à 35 km pour aller dans un centre de psychotrauma.
C'est pas une cure, c'est du long cours.
Tout à fait. Et sur les centres annoncés, sur le financement de ces centres, je crois qu'il est très très bas. Il n'est pas question d'imaginer plus de 2 ou 3 personnes présentes.
Tout à l'heure, Marital Diop, on vous retrouve pour conclure. Vous avez parlé de votre travail d'information avec la jeune génération. Est-ce que vous avez justement encore un message à faire passer, à faire diffuser à celles et ceux qui sont en train de nous écouter en ce moment-là, au Sénégal, mais un petit peu partout dans le monde?
Oui, j'ai un message d'abord pour les femmes, pour leur dire que la violence n'est pas une fatalité. Elles ne doivent pas accepter de se faire violenter au sein de leur ménage. Ce n'est pas quelque chose de normal. Ce n'est pas parce qu'on nous dit qu'une femme doit être endurante, une femme doit être courageuse, qu'on doit tout accepter. À un moment donné, il faut savoir dire stop avant qu'on arrive au point de non-retour.
Oui, mais encore faut-il que ces femmes puissent dire stop, Marital Diop.
Oui, je sais, parce qu'on a parlé de beaucoup de facteurs qui les obligent à rester dans le ménage là. C'est pour ces femmes, mais c'est également pour l'entourage de ces femmes-là. Il faut qu'elles aient un soutien, parce qu'elles arrivent rarement à s'en sortir toutes seules. Comme je l'ai dit, il y a la violence physique, il y a la violence sexuelle, la violence psychologique, mais il y a également la violence économique qui souvent pousse les femmes à rester dans ces ménages-là. Mais aussi, il faut qu'on puisse faire comprendre aux hommes que c'est pas en violentant une femme qu'on va affirmer sa masculinité. Ça n'a absolument rien à voir. Un homme, un vrai, n'a pas besoin de frapper sa femme pour s'affirmer.
Merci beaucoup. Hein. Merci pour ce message, Marital Diop. Très bonne continuation au sein de l'ONG Enda Santé à Kolda, Haute-Casamance, dont je vous rappelle, vous êtes responsable de projets santé sexuelle et reproductive.
RFI à Ziguinchor, 87.6 FM.
Trouver les forces pour en parler. Qui peut, justement, quand on est en situation comme ça d'isolement, on a parlé d'emprise, de désarroi, de souffrance, qui peut rallumer la petite lumière qui permettra de s'en sortir?
Alors, je vais dire, tout le monde peut le faire. Il suffit de respecter la femme, il suffit de lui poser la question. Et bien évidemment, le médecin peut, en confiance, poser la question des violences et permettre à la femme de parler. Il ne faut pas dire à la femme que c'est de sa faute si elle ne parle pas, que c'est de sa faute si elle ne part pas. Il faut l'aider à comprendre les choses. Et pour l'aider, c'est lui permettre de mettre des mots sur sa souffrance. Lui permettre d'être écouté, d'être entendu. Le médecin va lui dire « Je vous crois, merci de votre confiance. Ici, tout est dans le secret. Je peux vous aider. Vous n'êtes plus seul. » C'est vraiment important, vous n'êtes plus seul. La souffrance de ces femmes qui sont seules avec leur vécu, c'est terrifiant. Donc, vous n'êtes plus seul, je peux vous aider. Vous pouvez porter plainte, c'est quand vous le désirez. On va faire ensemble. On va expliquer la stratégie de l'agresseur, on va expliquer pourquoi elles n'ont pas pu réagir, pourquoi c'était très difficile. Il y avait les enfants, il y avait la peur, il y avait la protection. On va les aider à penser les violences et en les accompagnant, en les revoyant, je suis à votre disposition, je peux vous revoir quand vous voulez, en les mettant en lien avec les associations, en les mettant en lien avec les conseillers juridiques, avec des psychologues.
Oui, parce que sortir du cabinet médical et aller tout seul au commissariat, c'est pas évident.
Pas du tout, il faut être accompagné, il faut le temps. Le temps du patient, il est essentiel. Quand on a un diagnostic, et il faut le temps de prendre conscience de ce qu'on vit.
Oui, mais le problème, Gilles Lazimi, docteur Lazimi, il faut le temps. Mais ce temps, il peut être fatal.
Alors, on va revenir sur le secret médical. En situation d'urgence vitale, le médecin est délié de son secret et il va tout faire pour protéger la femme. Dans les autres cas, il faut laisser le temps à ces femmes. Ces femmes ne sont pas des mineures. Il faut absolument leur laisser le temps, leur donner la possibilité de redevenir auteur de leur vie, redonner l'estime. Vous savez, après une semaine de temps, deux semaines, ces femmes, elles reviennent et elles sont souriantes. J'ai dans mon cabinet une affiche magnifique métallique de Wonder Woman. Ce sont des Wonder Woman. Elles ont tout fait pour protéger leurs enfants. Elles ont supporté l'insupportable et on peut les aider à s'en sortir si on leur donne la possibilité d'être accompagnées et de parler.
Travailler sur les préjugés, avec ce mot, c'est notre conclusion. Ce mot que vous employez souvent, c'est celui de la confiance. Rendre de la confiance, docteur Gilles Lazimi.
Tout à fait. Rendre de la confiance, de l'estime d'elles-mêmes, les renarcissiser et leur montrer à quel point elles sont fortes et qu'elles vont s'en sortir et qu'on va les accompagner pour s'en sortir.
Il y a eu 50 questions énoncées aujourd'hui par le gouvernement. Vous, si vous aviez eu une question, l'urgence, la mesure, c'était quoi votre mesure à vous ?
Instruire toutes les plaintes et protéger toutes les femmes qui vont au commissariat. Les protéger après avec un hébergement sécure.
Donc là, on relève du judiciaire, on relève du sécuritaire et du financier, ces trois axes.
Tout à fait, ça c'est trois axes. Et évidemment, ensuite, pour les héberger et les protéger, il faut des associations et des hébergements sécurs pour ces femmes et ces enfants, car les enfants souffrent. Et si on veut que les violences cessent, eh ben, il va falloir agir sur ces enfants aussi.
Et les prendre en charge. On vous remercie infiniment, hein, docteur Gilles Lazimi, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes médecin généraliste au centre de santé de la ville de Romainville, en Seine-Saint-Denis, professeur associé de médecine générale à l'université Sorbonne Université. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise votre émission. C'est Toussamaké, Ophélie Lassène, Didier Bleu. Demain, nous vous proposons de réentendre l'émission que nous avions consacrée à la maladie de Lyme, infection provoquée par les piqûres de tique. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien.
« C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Faites comme tous nos clients prévoyants, mettez à l'abri ceux qui vous sont chers. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.